la cinquième oasis du désert, amen, qui va consister, donc je stipule ainsi, à activer l'alliance de bénédiction et marcher dans la gloire. Alléluia. Donc, dans cette école que tu vas traverser avec le Seigneur, tu vas apprendre à activer l'alliance de bénédiction. Pourquoi activer? Parce que tu l'as déjà reçu. Amen. Tu l'as déjà reçu dès l'instant où tu as cru en Jésus. La Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible nous annonce que nous serons bénis. La Bible dit, tu seras béni. Dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens, il est plutôt écrit, nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Donc, nous sommes déjà bénis. Dis avec moi, je suis béni. Amen. Donc, chers amis, faites très attention aux mots. Ne courez pas après la bénédiction parce que vous êtes déjà bénis. Dis, je suis béni. Amen. Donc, toutes les bénédictions qui sont citées dans la parole de Dieu sont tiennes. Elles sont à toi. Elles sont à toi. Tu es béni. Amen. Le fruit de tes entrailles est béni. Tu es béni dans tout territoire sur lequel tu marcheras. Tu as une bénédiction qui dit que les ennemis ne peuvent pas te vaincre. Ils s'élèveront contre toi et ils s'enfuiront par cet chemin. Tu as cette faveur-là dans ta vie. Les gens ne peuvent pas te détruire parce que Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as une bénédiction qui dit que tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Ça veut dire que ce que tu commences, tu vas commencer avec la faveur de Dieu et tu pourras l'achever avec la faveur de Dieu. Ça, tu l'as déjà. Si bien sûr, tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, la bénédiction est pour toi un acte futuriste. Tu dois faire ce matin la paix avec Christ, te tourner vers lui, reconnaître tes péchés et inviter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu deviennes co-héritier. Amen. La Bible, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est ça l'avantage du Nouveau Testament. C'est ça l'avantage de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les choses ne sont pas une promesse. Ce sont déjà des acquis. Amen. Mais maintenant, je peux avoir une chose et ne pas en jouir. Ça, ça fait la différence. Amen. Amen. On peut t'offrir une voiture, on dit c'est ta voiture. On regarde la carte grise, on a mis ton nom. Mais la voiture peut être là. Si tu ne prends pas la clé, si tu n'as pas le permis, si tu ne la conduis pas, tu vas ressembler à un piéton. Donc tu as une voiture, mais tu es piéton. Tu ressembles au piéton qui n'a pas de voiture. Toi, tu as une voiture, mais tu ne sais pas la conduire. Tu ne peux pas savoir peut-être parce que tu n'as pas encore le permis. Ou la voiture, elle est là, elle est à toi. On dit, c'est à qui la voiture? C'est à moi. On dit, c'est à qui la victoire sur les ennemis? C'est à toi. C'est à qui la bénédiction qui t'est bénie à ton départ, qui t'est bénie à la fin? C'est à toi. On t'a déjà donné. C'est à toi. Amen. Mais tout ce qu'on m'a donné est pratiquement nul si je ne l'utilise pas. On peut te donner un vêtement. Si tu ne le portes pas, il est inutile. On peut te donner une belle montre. Si tu ne la portes pas, elle va servir juste à orner ton armoire. Donc, faut pas confondre ceux qui n'ont pas et toi. Vous êtes différents. Amen. Satan va te faire croire que tu n'es pas béni. Tu as la bénédiction. Seulement, il se peut qu'elle ne soit pas activée, que tu ne l'utilises pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu possèdes quelque chose. Alors, ce qu'on apprend avec Christ, c'est apprendre à activer les bénédictions. Amen. Et parmi les bénédictions, il y a une qu'on appelle, qui est, moi, je pense, la principale. Ce que j'appelle la gloire. Amen. Parce que je vous ai dit, la gloire est supérieure à ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction se conjugue un peu au pluriel, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Quand on parle de bénédiction, je vais vous citer ceci point par point. Mais lorsqu'on parle de la gloire, on parle de Dieu même. On parle de Dieu, c'est-à-dire tout à l'intérieur. Quand tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, ça veut dire Dieu, tu le veux. Amen. Tu veux lui-même. Alléluia. Autrement dit, un monsieur peut être puissant. Tu peux bénéficier des fruits de sa puissance. Parce qu'il est puissant, il te donne de l'argent, il te prend une maison. Tu dis à l'homme puissant, je veux l'argent, je veux la maison, je veux ceci. Il te donne toutes ces choses-là en détail. Et puis, il y a une autre chose qui est meilleure. Si par exemple, ce monsieur ou bien cette femme, si vous êtes marié, si vous êtes en alliance, tu n'as pas à citer, je veux maison, je veux ça. Parce que quand tu es en alliance avec lui, ce qu'il est, tout ce qu'il a, qu'on a cité ou qu'on n'a pas cité, sont à toi. Amen. Donc lorsque vous entrez dans une... quand vous parlez de bénédiction, vous êtes obligé d'énumérer les choses, de dire, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. La gloire, c'est de dire non. Ça là, j'ai déjà. C'est toi-même, je veux. Dieu, je ne veux pas l'argent. Je te veux. Amen. Dieu, ce n'est pas le mariage, non, 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 je te veux. Donc, si tu es marié à Dieu, tu es en alliance avec Dieu, tu es uni à Dieu, tout ce que Dieu a, tu l'as. Amen. Tout ce que Dieu a, tu l'as. Donc, ce n'est pas simplement une affaire de Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu as la chose. Alléluia. Voilà. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, donc j'ai dit d'activer l'alliance de bénédiction et marcher dans la gloire. Pourquoi je fais ressortir la notion d'alliance? Parce que l'alliance va faire en sorte que ce qu'on va définir dans cette cinquième oasis va descendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Amen. Parce que lorsque tu es en alliance, lorsque tu es uni, l'affaire ne te concerne plus seulement. L'affaire concerne tout ce qui t'est proche. Lorsqu'on est en alliance avec une personne, si, je dis Dieu en alliance avec toi, si ta maman même qui ne connaît pas le Seigneur a un problème, ça intéresse Dieu. Si ton père qui n'intéresse pas le Seigneur a un problème, ça intéresse Dieu. Parce que Dieu sait que si lui il est malade, toi tu es triste. Et si toi tu es triste, lui il est triste. Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes marié avec votre femme, tout ce qui la concerne ou tout ce qui concerne ton conjoint te concerne. S'il y a un malheur dans sa famille, c'est aussi ton malheur à toi. Parce que vous êtes en alliance. L'alliance fait en sorte que tu t'es marié avec une personne, tu es en alliance avec une personne, mais tout ce qui concernait l'autre te concerne dorénavant. Amen. Amen. C'est pourquoi tout ce qui naîtra de toi, qu'il soit croyant ou pas, qu'il marche avec Jésus ou pas, c'est dommage s'il ne marche pas avec le Seigneur. Mais, même s'il ne marche pas avec Jésus, ils auront sur leur vie une faveur qui va les accompagner. Amen. Une protection qui va les garder. Alléluia. Alléluia. Bien vrai qu'ils doivent rencontrer Jésus pour assurer aller au paradis. Mais, déjà, ils vont jouir de ton alliance et de la protection divine qui est sur ta vie. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Donc on passe, pourquoi je parle d'alliance de bénédiction, on va voir ça tout à l'heure. Et donc je dis, activer l'alliance de bénédiction et marcher dans la gloire. C'est comme ça que je définis la cinquième oasis du désert. C'est l'endroit où Dieu va déployer toutes ces bonnes choses-là dans ta vie. En fait, il va te montrer comment on active ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen à Jésus. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai longuement expliqué que ce que l'homme recherche sur la terre, c'est la gloire de Dieu. Amen. Ce que l'homme recherche sur la terre, ta soif véritable, c'est l'intimité avec Dieu. Être connecté à Dieu. Que Dieu et toi, vous fassiez un. La Bible décrit les premiers hommes, Adam et Ève, comme étant des personnes qui étaient nues et qui n'avaient pas honte. Quand on dit que quelqu'un est nu, ça veut dire que son intimité est présentée. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Donc Dieu voyait l'homme dans son intimité, l'homme voyait aussi Dieu comme il était, et ça ne posait aucun problème. Mais lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, ce qu'ils ont caché, c'était leur partie intime. Vous me suivez? C'est-à-dire, depuis cet instant-là, ils se sont coupés de Dieu. Ils ont dit, Dieu, entre toi et nous, on va avoir maintenant des secrets. Cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu a acté leur décision en disant, quittez le jardin d'Éden, parce que là aussi, c'est ma maison, c'est mon intimité. Amen. Et la Bible dit qu'il a mis des anges devant pour empêcher l'homme de le voir, de voir Dieu. Mais la Bible dit qu'au travers de Jésus, nous avons accès à nouveau à cet endroit merveilleux. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc, quand on est parti de Dieu, alors va commencer tous les problèmes de l'humanité. Quand Adam était dans le jardin, il n'y avait pas d'histoire de cherche l'argent, travail. On ne parlait pas comme ça parce qu'ils étaient unis à Dieu. Tout ce qui était à Dieu était à eux. C'est lorsque l'homme a quitté le jardin d'Éden que maintenant, il a commencé à rechercher la paix. Il a commencé à rechercher ceci, cela, le mariage, les enfants. Quand ils étaient avec Dieu, ce n'était pas un problème. Amen. Mais lorsqu'ils ont quitté l'intimité de Dieu, lorsque tu n'es plus en alliance avec une personne, alors c'est là que tu es obligé de prendre les bénédictions en détail. Quelqu'un me suit? Amen. Et puis si tu as oublié une, malheur à toi. Et tu as cité toutes les bénédictions jusqu'à, tu as oublié la bénédiction qui dit, ta maison et ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire tu ne manqueras de rien. Parce qu'en tout, 12 grandes bénédictions. Amen. Si tu as manqué celle-là, tu as la bénédiction qui dit, les ennemis s'élèveront contre toi, tu vas les vaincre. Ça, c'est une faveur dans ta vie. Tous ceux qui te combattent sur le plan professionnel sont terrassés. Amen. Ça, c'est une des bénédictions. Mais tu peux ne pas avoir celle qui dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Cette bénédiction-là dit, elle annonce que ta maison ne manquera pas de quoi vivre. Quand quelqu'un a cette bénédiction, quelle que soit la crise que peut traverser un pays, il a toujours à manger. Amen. Il mange et il n'est pas endetté. C'est la bénédiction qui fait que tu n'es pas endetté. Si tu prends, tu arrives à rendre, en fait, tu ne dois à personne. Amen. Donc, tu peux ne pas avoir cette alliance. Tes ennemis, tu triomphes. Et puis, toi, tu n'as pas cette bénédiction-là. C'est-à-dire que tu es toujours dans la galère. Tu dois toujours à tout le monde. Parce que ça, ce n'est pas activé. Amen. Donc, c'est une bénédiction. Il y en a en tout 12. Tu peux avoir ta corbeille et ta huche sont bénies. Et puis, tu n'as pas déclenché la bénédiction contre les ennemis. Donc, tu manges. Tu dois à personne. Mais les gens te font la guerre et ils te frappent sérieusement. Et tu as des problèmes. Tu commences un travail, on te renvoie, tout le monde est contre toi. Les sorciers arrivent à te créer des problèmes, tout ça. C'est pas normal. Donc, il y a 12 bénédictions. Et quand tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, tu es obligé de les prendre une par une, une par une. Et c'est compliqué. Amen. La meilleure des choses, c'est d'être en alliance, c'est d'entrer à nouveau dans la gloire. Alléluia. Là, Dieu te donne tout en même temps. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et je dis que ce que Dieu nous donne quand on est dans sa limite, c'est ce qu'on appelle la gloire. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous recherchons. Amen. Ce qu'on va aborder pendant ce dimanche-là va traiter avec notre cœur. La cinquième oasis intervient dans un désert, ce que je peux appeler le... Lorsque tu commences à perdre ce à quoi tu es attaché. Amen. Quand on parle d'intimité, on dit une personne est mon intime, ça veut dire qu'on est attaché à elle. Vous me suivez? Lorsqu'on dit que je suis intime à une personne, ça veut dire que nous sommes liés, nous sommes attachés. En parlant d'alliance, pour revenir à l'alliance du mariage, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils vont devenir une seule chair. Donc ils sont attachés. Ils vont s'attacher. Ils sont attachés. L'ennemi de l'attachement avec une personne, c'est le fait d'être attaché à autre chose. Qu'est-ce qui brise un attachement? C'est un autre attachement. Quelqu'un me suit? Amen. L'alliance du mariage peut être remise en cause quand un des conjoints va s'attacher avec une autre personne. Le mariage n'est pas un ménage à trois ou à quatre. Il y a une seule corde pour s'attacher. On ne peut pas attacher. Prends la corde et puis attacher tout le monde. Amène-toi. Amen. Donc, si tu es attaché à autre chose, tu ne peux pas être attaché à une femme dehors et être attaché en même temps à ta femme. Amen. Donc, le problème de l'intimité, c'est le problème de l'attachement. C'est pareil dans notre relation avec Dieu. Amen. Pour avoir la gloire, on a écouté l'enseignement sur le tabernacle, il faut rentrer, il faut être attaché à Dieu. Maintenant, pourquoi certains ne rentrent pas dans cet attachement? Parce qu'en fait, ils sont attachés consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire peut-être tu le sais, et peut-être tu l'ignores. Mais peut-être, certainement, tu es attaché à d'autres choses. Et le cinquième désert, c'est le moment où Dieu va toucher les choses auxquelles tu es attaché. Pour te dire, ça là, ma fille, ça là, mon fils, ça t'empêche de recevoir toute mon énergie. Tu es attaché à une chose qui n'est peut-être pas mauvaise. Ce n'est pas noté comme étant un péché. Mais tu es tellement attaché à cela que tu n'arrives pas à jouir pleinement de l'intimité que le Seigneur t'offre et de tous les privilèges qui sont attachés à votre alliance. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on suit la parole? Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Alors on parlera du cœur. Et quand on parle d'attachement, on parle du cœur. C'est dans le cœur qu'on a des attachements. Amen. Amen, amen. Il y a certains qui sont très attachés à leur travail. Et sans s'en rendre compte, ils sont plus attachés à leur travail qu'ils ne sont attachés à Dieu. en a d'autres qui sont très attachés à leur activité. L'activité n'est pas mauvaise, mais ils ne se rendent pas compte que l'activité qu'ils font, ils doivent la faire, mais l'activité devient comme un adultère vis-à-vis de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont attachées, même en tant que des pasteurs, ils sont plus attachés à leur église qu'au Seigneur. Je vais encore aller plus loin. Il y a d'autres personnes qui sont plus attachées à leur conjoint qu'au Seigneur. D'autres encore sont plus attachées à leur projet de mariage qu'à Dieu. Dieu donne le mariage. Mais certains sont beaucoup plus attachés à leur plan du mariage qu'au Seigneur même. En fait, c'est une affaire d'attachement. La cinquième épreuve du désert consiste à venir toucher ce à quoi tu es attaché. Donc, tu vas sentir une certaine douleur. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu va venir mettre le doigt sur son concurrent, il va dire, tu m'aimes. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes. Il dit, je t'aime. Il dit, viens, viens. Ça là, est-ce que tu peux laisser ça pour moi? Ah, mais Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné. Ouais, c'est vrai, mais je suis un peu jaloux, quoi. Mais tu prends trop de temps dans cette affaire. Toute épouse veut que son mari travaille. Mais si ton mari, à l'heure où il doit être au lit, est en train de travailler, si ton mari, à l'heure où il doit être laissé sur son ordinateur, tu vas détester l'ordinateur. C'est pas vrai? Tu veux que ton mari ait un ordinateur. Mais depuis qu'il a son ordinateur, surtout depuis qu'il a son iPad, oh vraiment, avec sa tablette, on ne peut pas parler avec monsieur. Dès qu'on est là, je lui dis, viens, parle un peu. Attends, je réponds à un, j'ai un truc. Donc, quelquefois, elle a envie de prendre le truc et puis casser pour dire, mais il y a quoi? Qui connaît ça? Moi aussi, je suis. C'est-à-dire, dans la droite sur mon lit, là. Je mets ma tablette là-bas et puis mon ordinateur. Donc, on est là, quand je me tourne de côté là. Je fais quoi? Je prépare les messages. Alors donc, ce que Dieu nous, dont Dieu nous parle, ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est la vie de tous les jours. Lorsqu'on est attaché, lorsqu'on a un attachement, ce n'est pas qu'on ne veut pas que la personne fasse autre chose. Mais l'attachement parle d'une affaire de priorité. Quand c'est telle chose, telle personne, tu es plus attaché à elle qu'à toute autre chose. Et c'est ce type de relation-là. Parce que c'est dans ce type de communion qu'on arrive à être vraiment intime et à communiquer toute la vie et à marquer ainsi la vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette épreuve, c'est dans ce désert qu'Israël va arriver. Et Israël va échouer en préférant s'attacher à ce qu'on appelait le veau d'or. Là qu'on arrive donc à la cinquième épreuve, l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, c'est un palabre d'attachement. C'est une épreuve d'attachement. Israël a préféré s'attacher à ses activités, à son rêve, à l'argent, à beaucoup de choses. Quand le veau d'or qu'Israël a conçu transporte en lui un ensemble de messages. Un ensemble de messages. En fait, qui traduit ce à quoi les hommes peuvent s'attacher. L'attachement à autre chose qui n'est pas Dieu est appelé de l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, ça ne concerne pas seulement le fait d'aller se mettre à genoux devant une statue, mais ça va beaucoup plus loin. Amen, amen. Amen. Et Abraham est très intéressant. On va revenir tout à l'heure rapidement sur l'histoire de Exode 22. Je vais commenter et ça sera bon pour aujourd'hui. Il est dit, Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Genèse 22, verset 1. Il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Abraham répondit, verset 9, il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur cet enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange dit, pardon, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Là, Abraham a posé un acte. Abraham marchait déjà depuis de longues années avec le Seigneur. Abraham a posé un acte qui a amené Dieu à jurer. Mais, mes amis, Dieu même là, sa parole, c'est déjà suffisant. Maintenant, Dieu vient et dit, je jure. Allez, Dieu a parlé. Dieu dit, je t'élève. Maintenant, à un moment donné, il vient et dit, je jure. Je jure, ça là, je jure. Qu'est-ce qui a amené? Parce que depuis la Genèse 12, Abraham, on a dit, je te bénirai. La différence avec Genèse 22, c'est quitter la notion de tu es béni. On a juré maintenant. Dieu dit, je le jure. Je ne sais pas c'est qui Dieu peut jurer. Il n'y a pas plus grand que lui encore. Amen. Il dit, je le jure. Toi et tes enfants, vous allez bénir les nations. Je le jure. Moi, Dieu, je le jure. Ta descendance va posséder la porte de ses ennemis. Posséder la porte des ennemis, c'est la bénédiction que je dis sur les ennemis. Ça veut dire, c'est quand tu possèdes la porte, ça veut dire que ton ennemi ne peut pas entrer ni sortir. Il dit, ta descendance va posséder la porte de ses ennemis. Ça veut dire que tu vas contrôler l'adversité. Tu vas contrôler les gens. Ceux qui te combattent, tu vas décider. Ça veut dire, il ne faut pas que quelqu'un te combatte. Parce que quand ils vont te combattre, c'est ce que tu vas dire qui leur arrivera. Si tu décides de fermer le ciel sur eux, le ciel sera fermé. Si tu décides de leur faire grâce, il leur sera fait grâce. C'est ce que Dieu dit. Il dit, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Il dit, je le jure. C'est ce qui va arriver. Amen. Donc, mais ça, c'est une bénédiction qu'Abraham avait déjà. Si on lit les textes avant, Dieu dit, je te bénirai, je te lèverai. Mais là, c'est passé, ça a passé le cap de la déclaration. C'est rentré dans, c'est ce que j'appelle maintenant l'alliance. C'est-à-dire, Dieu a juré, c'est plus que je souhaite faire ça pour toi, ou je vais faire. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas une simple bénédiction. Abraham a passé un cap. Mais pour qu'il arrive à ce cap, Dieu va tester quelque chose. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ça la cinquième épreuve du désert. C'est un test. Il dit, il y a longtemps, j'étais promis un enfant. Tu l'as eu. Maintenant, donne-le-moi. Viens le sacrifier. Abraham a montré que c'est vrai que j'ai attendu cet enfant-là plus de 40 ans. Mais si tu veux le reprendre, que ton nom soit élevé. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire quelque chose que tu as attendu, attendu, attendu. Amen. Et Dieu rencontre Abraham. Il dit, bon, c'est vrai que je t'ai donné ce travail. Écoute, je ne vais pas te dire d'abandonner ton travail. Amen. Alléluia. C'est vrai que je t'ai donné ceci. Ou c'est vrai que je vais te donner cela. Abraham était attaché à son fils. Pourquoi il dit ton fils, ton unique, celui à qui tu tiens, celui que tu aimes. Est-ce que tu peux le mettre sur l'autel des holocaustes à cause de moi? En fait, autrement dit, est-ce que tu l'aimes plus que tu m'aimes? Est-ce que tu es plus attaché à moi qu'à cet enfant? Et Abraham a prouvé à Dieu qu'il était plus attaché à lui qu'à cet enfant. Et c'est parce qu'Abraham a montré à Dieu qu'il était plus attaché à lui qu'à cet enfant, à toute autre chose, que Dieu va déclencher la seconde partie. Et c'est ce qui va se produire.